Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
La monnaie, elle ne meurt jamais. Elle peut faire mine de disparaître, elle revient après thésaurisation. La monnaie est un formidable instrument de pouvoir, l'a toujours été, même s'il faut bien dénicher dans l'histoire de l'humanité son surgissement, et ce, dans quel pays. Instrument de pouvoir, il n'y a qu'à contempler des siècles après le profil altier des hommes alors au pouvoir sur une face de la dite monnaie. La matinée des autres, Un sou n'est pas un sou, par Francesca Piolo, première diffusion sur France Culture le 15 décembre 1981.
Ça va, toi? Tu vas bien?
Moi, toujours bien.
J'ai jamais été malade.
Gilus,
hein, qu'est-ce qu'il y a?
Écoute bien, un peu, t'es instruit, toi.
Hein, qu'est-ce qu'il y a, madame?
Qu'est-ce qu'il y a sur une pièce de 1 franc? Est-ce que vous le savez?
Bon, non, j'en sais rien, moi.
Pourtant, ça va? Ça arrive des enfants, regarde.
Il y a un compte dessus.
Mais non, la Nouvelle République.
Oh.
Vous savez.
La République. Bah. Moi, j'en sais rien, moi, que j'ai même pas regardé dessus. Hein.
La Nouvelle République, qu'est-ce que c'est?
Mec, on est pris dans le truc, là.
Bah, puis.
Sur une pièce de 1 franc.
Oui.
Une sonneuse.
Et puis.
Attendez, je vais vous dire ça.
Ah, bon. Non, ça, regardez.
C'est la République française, madame.
Non, bah, qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Moi, il n'y a qu'une sommeuse. Puis il y a marqué République française, tu sais tout, non? Hein? Oh, il y a encore autre chose, alors.
C'est quoi avec des enfants, dit?
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dessus sur la pièce?
Ouais.
Une sommeuse, non?
Bah oui.
C'est pas la sommeuse? Eh bah, c'est bon. Je sais pas, moi. Ça vaut 1 franc, ça vaut 1 franc, ça vaut 1 franc, non?
Branche de laurier.
Branche de laurier, de l'autre côté.
Une
branche de égalité, fraternité.
Française.
Française, ouais.
Enfin, oui.
C'est tout?
La monnaie est née en Lydie, c'est-à-dire dans la Turquie actuelle, en Asie mineure, au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne du roi lydien Ardis. Et cette monnaie était au début constituée de simples petits lingots d'électrum. L'électrum, c'est un alliage naturel d'or et d'argent, que l'on trouvait comme ça relativement facilement en pépites qui étaient charriées par le fleuve Pactole. Vous savez, le fameux fleuve Pactole qui a laissé un nom que nous utilisons encore aujourd'hui. Eh bien, à partir de ces petites boulettes d'électrum, on a fait des lingots sur lesquels on a estampillé le sceau, si vous voulez, qui affirmait l'autorité du roi et en même temps garantissait la valeur de ce lingot, de cette monnaie. Mais alors, il y a quelque chose de tout à fait étonnant que je pense qu'il faut souligner, parce que c'est d'abord très étonnant en soi-même, et puis ensuite c'est une découverte assez récente, c'est que la monnaie, dès son origine, a peut-être été un petit peu truquée. Qu'est-ce qu'on vient de découvrir de manière très récente? C'est que lorsqu'on invente la monnaie, eh bien le roi Ardis invente une monnaie qui est déjà truquée, dont la valeur n'est pas en fait la valeur normale que l'on devrait en attendre. Le pourcentage d'or dans ces boulettes d'électrum variait, il n'était pas fixe. Et deuxièmement, on a trouvé qu'il était toujours inférieur au pourcentage normal, au pourcentage naturel de l'or et de l'argent dans les pépites d'électrum. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, selon toute évidence, on a dès l'origine un petit peu truqué la monnaie. On a fait, sans le savoir peut-être, ou en le voulant, bien au contraire, une monnaie fiduciaire qui, au fond, n'est pas tellement loin de notre papier-monnaie actuel. Déjà des manipulations.
Oui, grelot, combien j'ai tout dans mon sabot? 5. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, ouais.
La matinée des autres.
Ah bon, alors à moi. Groligolo, combien j'ai de sous dans mon sabot?
2.
Un sou n'est pas un sou.
Groligolo, combien j'ai de sous dans mes sabots?
4, 5. T'as deviné. 5.
Ouais.
Qui a donné les autres?
Par Francesca Piolo.
Roligrolo, combien j'ai de sous dans mes sabots?
5.
2. Et toi? 7.
Les autres. Alain Veil, numismate. Claude Turier, dessinateur humoriste. Maxime Préau, folkloriste.
Groli, grolo, combien j'ai de sous dans mes sabots?
3.
T'as gagné.
3.
Tu triches, hein?
Mais non!
Il y a des expressions populaires qui se rapportent effectivement à ce côté des choses. Et puis, il y a aussi une interaction de la monnaie sur le langage. Si vous voulez, la monnaie et le langage interagissent l'un envers l'autre. Mais effectivement, il y a des expressions qui montrent bien la puissance, si je puis dire, spirituelle de la monnaie par la force des expressions qui sont employées. Il paraît que en Italie, un petit peu après le Moyen-Âge, peut-être à l'époque de la Renaissance, lorsqu'un débiteur ne pouvait plus payer ce qu'il devait, il pouvait en quelque sorte s'acquitter de sa dette par une espèce de cérémonie publique où, en place publique, il se déculottait et il se battait le derrière contre les pavés. Et c'était en quelque sorte finalement une satisfaction qu'on donnait à ses créanciers et qui le dégageait de toute poursuite ultérieure.
Je vais tout centrer mon discours sur une phrase révélatrice et vraiment sublime de Lénine, lequel avait écrit textuellement. J'espère que le jour que nous aurons pris le pouvoir, nous pourrons construire des pissotières en or. Après ma femme, qui est ma plus grande passion, après ça, tout de suite, c'est l'argent.
Qu'en faites-vous?
Rien. Parce que quand plus d'argent j'ai, plus avare je deviens. Mais comme que j'ai le sang phénicien et j'ai un besoin très grand d'avoir de grands stockages d'or et de dollars et d'argent. Chaque fois que je deviens plus riche, plus de chèques, vous savez que ce que j'adore le plus c'est l'argent. Et après tout de suite l'or, parce que je suis mystique. Ce qui me fait gagner de l'argent, c'est pas l'art, c'est ma méthode paranoïa critique. Comme conclusion de tous ces cadeaux, comme cercle vicieux, disons, j'ai reçu 2 chevaux de course et je sais qu'on gagnera une pluie, pas une pluie, une divine diarrhée d'or qui va se accumuler aux coliques chroniques que je possède depuis longtemps à propos de cette substance magique.
Alors, pour décrire précisément ce qui se passe, l'enfant commence par trouver donc du plaisir à retenir son excrément. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la demande de l'adulte, puisque l'adulte lui demande de donner cet objet, donc qui est chéri pour cette raison par l'enfant, et de le donner au temps où lui, l'adulte, l'estime nécessaire.
Hubert d'Assigny, médecin.
Cette demande fait que l'enfant investit cet objet comme appartenant à son image, puisque cet objet est valorisé par l'autre, l'autre, l'adulte, vis-à-vis duquel sa demande d'amour le met en dépendance. Or, c'est justement le fait d'être assujetti, donc d'être représenté par cet objet, qui fait obstacle au flux du désir. Puisque le désir ne s'anime, justement, pour l'enfant que de n'être renvoyé à aucun objet.
Saint-Martin, boule, 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 chie des croquandoules, dans la rue des Capucins, donne des boudins.
Dans la littérature psychanalytique, l'argent est proposé comme équivalence, en fantasme, à tous les termes. C'est-à-dire que, selon les auteurs, l'argent signifie le père, la mère, le vagin, le pénis, l'enfant, le sang, l'excrément, la mort, la naissance, etc. Mais ce qui reste méconnu, c'est l'acte du paiement. C'est-à-dire la manière dont l'argent intervient dans la cure. L'acte du paiement est indispensable pour que la relance du désir ait lieu, pour que la cure ait un sens, c'est-à-dire pour que la parole adressée à l'analyste le soit du lieu du sujet. Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Ça veut dire que le paiement, l'argent qui s'échange entre le psychanalyste et son patient, pour le dire très vite, marque le désir d'assumer l'acte d'être né, d'être séparé de celui dont le sujet vient, ce qui est désigné dans la théorie psychanalytique par le terme de meurtre du père. Cette séparation dont l'argent donné à l'analyste est le signe renvoie aux pertes successives qui structurent la dynamique du désir. C'est là que nous allons revenir sur les équivalences précédentes, dans lesquelles, pour le dire de façon très simple, l'argent égale indifféremment l'objet oral, l'objet anal et le phallus. On vient de voir donc que l'argent renvoie aussi bien à l'objet en tant qu'il comble la demande qu'à son contraire dans la cure. Et c'est justement sa place dans le traitement de venir désigner le manque de l'objet, sa chute, son impossibilité à venir saturer le désir rabattu sur le besoin. En fait, dans la vie du patient, on voit qu'il se sert de l'argent pour un certain nombre de satisfactions. Et que toutes ces satisfactions diverses, satisfaction orale, satisfaction anale, ou prendre le pénis du père, ça peut se traduire par emprunter de l'argent, donner de l'argent. Alors que dans la cure, donner de l'argent, ça a la signification contraire. C'est la signification de renoncer à l'objet oral, de renoncer à l'objet anal, et de tuer le père. C'est donc la même chose, l'argent, qui prend un sens totalement opposé, selon que ça se situe dans la vie du patient, par rapport à son économie libidinale, ou dans la dynamique de la cure psychanalytique. Alors, pour détailler les choses, l'absence de l'objet oral signifie le renoncement à trouver sa béatitude dans le sein maternel, la chute de l'objet anal renvoie au renoncement à se clore sur le plaisir rétentionnel sadique autour de l'excrément, en même temps qu'à y trouver son identité. Et l'argent est symbole de la castration, qui signifie renoncement à trouver dans le pénis l'instrument d'une jouissance qui ferait du rapport sexuel la perfection extatique d'une retrouvaille achevée avec l'autre sexe. «
passant par un désert, la queue levée, le cul ouvert, fit un gros P. Pour qui ? Pour toi. Retire-toi dans ta cabane en bois.
Je crois que tout le problème de ce que j'appelle les pouvoirs cachés de la monnaie vient du fait que la monnaie, à l'évidence, est un pouvoir, c'est le pouvoir économique, mais en même temps, c'est l'image de tous les autres pouvoirs. Et il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on parle de ces problèmes, c'est le fait que, dans le temps, il n'y a pas tellement longtemps encore, les pouvoirs économiques, politiques et même spirituels n'étaient pas tellement séparés. Alors que maintenant, nous faisons une séparation très forte et très précise entre les divers pouvoirs. Dans les régimes qui ont connu comme forme d'expression politique la royauté, par exemple, le pouvoir spirituel était très associé au pouvoir politique et aussi au pouvoir économique. Et en ce sens, la monnaie reflétait l'ensemble de ces pouvoirs. C'est peut-être pour ça qu'elle a pu garder une puissance tout à fait extraordinaire. Vous savez, il y a quelque chose de curieux sur la monnaie. Lorsqu'elle a son pouvoir de nos jours, on ne la connaît pas. Et lorsqu'elle a perdu son pouvoir, lorsqu'elle est démonétisée, elle attire beaucoup les gens et on lui prête de grandes vertus. En fait, la monnaie ne meurt jamais, n'est-ce pas ? La monnaie ne meurt jamais, elle revit après thésaurisation et elle n'a pas de mort. Et alors pourquoi tous ces pouvoirs ? Eh bien parce que, dans le temps, le pouvoir politique n'était pas séparé du pouvoir économique. Si bien que les images qui sont transmises par les monnaies qui ont été frappées pendant l'Antiquité, notamment, sont des images qui avaient une force politique très importante. Et une force religieuse aussi très importante. Et donc la force des images, des empreintes, comme nous disons dans notre jargon numismatique, des types monétaires plus exactement, des empreintes monétaires ou des types monétaires, c'est une force très très grande. Et j'en donne quelques exemples qu'on peut développer si vous voulez, notamment le problème du portrait humain sur la monnaie, de l'apparition et de la disparition un petit peu cyclique au cours des temps, du portrait sur la monnaie. Quand on connaît un tout petit peu la numismatique grecque, on est frappé de voir que les portraits des grands noms de la Grèce antique n'apparaissent pas sur les monnaies. La monnaie grecque est une chose merveilleuse, c'est souvent une œuvre d'art, et les types monétaires qu'on voit emprunts dessus sont souvent des dieux, ou bien des animaux, ou bien encore d'autres représentations, mais très peu souvent des portraits. En fait, le portrait sur la monnaie grecque n'apparaîtra qu'après la mort d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, qui est pourtant un peu l'archétype du héros fait homme et du pouvoir humain, eh bien Alexandre le Grand lui-même n'osera pas faire frapper des monnaies à sa propre effigie. Il faudra attendre ses généraux, les diadoques, il faudra attendre le partage de l'empire d'Alexandre en plusieurs parties distribuées à tous ses généraux, pour que ceux-ci osent peu à peu faire frapper monnaie à leur propre effigie. Et encore, ça ne se fera pas tout de suite. Ils feront d'abord, dans un premier temps, frapper monnaie à l'effigie divinisée d'Alexandre le Grand, représentée avec les cornes d'Amon notamment. Ce sont des très curieux portraits qui reprennent sûrement les traits d'Alexandre, mais qui veulent donner tout de même l'image d'une divinité. Très souvent, le champ monétaire, c'est-à-dire l'espace sur lequel est frappé les types monétaires, appartient aux dieux dans l'Antiquité. Vous voyez donc que c'est une possession tout à fait redoutable, et que la concurrence que l'on peut faire aux dieux n'est pas du tout évidente. Il faut vraiment avoir déjà l'assurance d'être soi-même quasiment un dieu pour pouvoir. Il faut mériter sur sa place sur la monnaie d'une part, et il faut aussi que cette place soit admise, n'est-ce pas ? Il ne suffit pas, notamment dans l'Antiquité, où tous les problèmes spirituels et religieux sont extrêmement forts, il ne suffit pas de prendre cette place, il faut qu'elle soit admise. Je veux dire qu'il est très vraisemblable que si Alexandre le Grand a hésité à faire figurer son propre portrait, et finalement ne l'a pas fait, c'est qu'il pensait qu'elle ne serait pas admise par le peuple, qu'il pensait que les conditions psychologiques, si vous voulez, que la conscience collective de l'époque, on pourrait dire, n'était pas prête à admettre cette figuration. Et alors vous voyez, ce qui est curieux, c'est que cette lutte, au fond, entre les dieux et les hommes, que je viens de décrire très rapidement pour l'Antiquité grecque, elle se répète au fil de l'histoire, finalement, cycliquement. Il y a des allées et venues du grand balancier de l'histoire, et notamment, elle va se répéter pour l'histoire romaine. Les Grecs ont mis longtemps avant de faire frapper des monnaies à l'effigie d'un homme, et bien de la même manière, les Romains vont reprendre, si j'ose dire, l'histoire à zéro, notamment du point de vue numismatique, et ils vont mettre pas mal de temps avant de faire figurer un portrait humain sur les monnaies. Par exemple, toute la période de la République romaine ne fera pas figurer de portrait humain. Il faudra attendre la période de César, et même pratiquement sa mort, pour que la loi, pour que les pères conscrits autorisent un humain à faire figurer son effigie monétaire sur un denier ou un aureus. Et après cette première, si je puis dire, donc après César, alors là, ça sera le grand succès, et les Romains, dans la période de l'Empire, vont en user et en abuser. Ils vont en faire un emploi tout à fait étonnant. Ils vont faire figurer leur portrait. Bien sûr, l'empereur aura son portrait sur l'avers des monnaies, mais il n'y aura pas que l'empereur, il y aura toute la famille impériale. Il y aura même parfois le favori de l'empereur. Vous avez des bronzes d'Antinous, vous savez, le grand favori d'Adrien, qui apparaît d'une manière spectaculaire, le torse sensuel très largement étalé sur la surface du bronze. Et puis il y aura évidemment les parents de l'empereur, et puis il y aura aussi toutes les actions de l'empereur qui seront représentées sur les monnaies, tous les hauts faits de l'empire, toutes les vertus, et même parfois les vices qui, curieusement, vont apparaître et être immortalisés par les reins ou même l'or. Dans ce domaine, il y a des monnaies très curieuses, certaines rares, d'autres moins rares. Il y a, par exemple, dans les monnaies qui ne sont pas très rares, les beaux bronzes de Néron, le cruel Néron, qui apparaît lui-même déguisé en Apollon et jouant de la lyre. Le portrait va de nouveau disparaître. Et alors ça, on ne s'en étonnera pas beaucoup, puisque on va entrer dans l'époque du Moyen-Âge, et à une époque où le religieux, où tout ce qui est divin, va être tout à fait prééminent. Alors il n'est pas étonnant que, cette fois, à nouveau, Dieu chasse l'homme, du moins sur le champ monétaire. Et alors, tout naturellement, c'est à l'époque de la Renaissance que vont revenir les portraits sur les monnaies. Je dis tout naturellement parce que c'est le grand mouvement d'esprit et des consciences qui fait qu'à l'époque de la Renaissance, c'est un lieu commun de le dire, mais l'homme redevient prééminent. Les Italiens vont les premiers recommencer à faire figurer une image humaine sur la monnaie, et c'est le grand condottiere François Sforza de Milan qui va tout d'abord faire frapper des monnaies d'or à son effigie. Et ce seront les fameux testons. De tout temps, on a retrouvé ce phénomène que la monnaie est le message du pouvoir. Et alors quand je parle de l'illusion du pouvoir, c'est que je veux montrer que même les gens qui ne sont pas au pouvoir, les gens de l'opposition, officiels ou même cachés, se sont servis de la monnaie. Et ça montre quoi, ça? Ça montre que la monnaie est un instrument extraordinaire de pouvoir, puisque même les gens qui n'y sont pas utilisent cette arme pour essayer de conquérir le pouvoir.
Je dois commencer par vous parler d'un personnage que vous ne pouvez pas connaître. Il s'agit d'un usurier. Saisirez-vous bien cette figure pâle et blafarde, à laquelle je voudrais que l'Académie me permît de donner le nom de face lunaire. Elle ressemblait à du vermeil dédoré. Les cheveux de mon usurier étaient plats, soigneusement peignés, et d'un gris cendré. Les traits de son visage, impassible autant que celui de Talleyrand, paraissait avoir été coulé en bronze. Jaune comme ceux d'une fouine, ses petits yeux n'avaient presque point de cils et craignaient la lumière. Mais l'abat-jour d'une vieille casquette les en garantissait. Son nez pointu était si grêlé dans le bout que vous l'eussiez comparé à une vrille. Il avait les lèvres minces de ces alchimistes et de ces petits vieillards peints par Rembrandt ou par Metsu. Cet homme parlait bas, d'un ton doux, et ne s'emportait jamais. Son âge était un problème. On ne pouvait pas savoir s'il était vieux avant le temps ou s'il avait ménagé sa jeunesse afin qu'elle lui servît toujours. Un soir, j'entrais chez cet homme qui s'était fait or et que par antiphrase ou par raillerie, ses victimes qu'il nommait ses clients appelaient Papa Gobseck. Je le trouvais sur son fauteuil, immobile comme une statue, les yeux arrêtés sur le manteau de la cheminée où il semblait relire ses bordereaux d'escompte. Une lampe fumeuse dont le pied avait été vert jetait une lueur qui, loin de colorer ce visage, en faisait mieux ressortir la pâleur. Il me regarda silencieusement et me montra ma chaise qui m'attendait. « À quoi cet être-là pense-t-il » me dis-je. « Sait-il qu'il existe un Dieu, un sentiment, des femmes, un bonheur ?» Je le plaignis comme j'aurais plaint un malade. Mais je comprenais bien aussi que s'il avait des millions à la banque, il pouvait posséder par la pensée la terre qu'il avait parcourue, fouillée, soupesée, évaluée, exploitée. « Bonjour, Papa Gobseck, » lui dis-je. Je lui parlais d'argent pour la première fois. Il leva sur moi ses yeux par un mouvement railleur, puis de sa voix douce, dont les accents ressemblaient au son que tire de sa flûte un élève qui n'en a pas l'embouchure. « Je m'amuse, » me dit-il. « Vous vous amusez donc quelquefois ? Croyez-vous qu'il n'y ait de poètes que ceux qui impriment des vers ?» me demanda-t-il en haussant les épaules et me jetant un regard de pitié. « De la poésie dans cette tête, » pensais-je, car je ne connaissais encore rien de sa vie. « Quelle existence pourrait être aussi brillante que l'est la mienne ?» dit-il en continuant, et son œil s'anima. « Vous êtes jeune, vous avez les idées de votre sang, vous voyez des figures de femmes dans vos tisons. Moi, je n'aperçois que des charbons dans les miens. Vous croyez à tout ? Moi, je ne crois à rien. Gardez vos illusions si vous le pouvez. Je vais vous faire le décompte de la vie. Si vous aviez vécu autant que moi, vous sauriez qu'il n'est qu'une seule chose matérielle dont la valeur soit assez certaine pour qu'un homme s'en occupe. Cette chose... c'est l'or. L'or représente toutes les forces humaines. J'ai voyagé, j'ai vu qu'il y avait partout des plaines ou des montagnes. Les plaines ennuient, les montagnes fatiguent. Les lieux ne signifient donc rien. Quant aux mœurs, l'homme est le même partout. Partout, le combat entre le pauvre et le riche est établi. Partout, il est inévitable. Il vaut donc mieux être l'exploitant que d'être l'exploité. Partout, il se rencontre des gens musculeux qui travaillent et des gens lymphatiques qui se tourmentent. Partout, les plaisirs sont les mêmes, car partout, les sens s'épuisent et il ne leur survit qu'un seul sentiment, la vanité. La vanité, c'est toujours le moi. La vanité ne se satisfait que par des flots d'or. Nos fantaisies veulent du temps, des moyens physiques ou des soins. Eh bien, l'or contient tout en germe et donne tout en réalité.
Nous, dessinateurs humoristes, on est un petit peu des voyeurs, hein. Je ne dis pas des visionnaires, on regarderait plutôt par le trou de la serrure qu'au-dessus d'une échelle. Alors tout ce qui touche un petit peu la vie de tous les jours, ça nous intéresse parce qu'il se passe des situations plutôt cocasses ou que nous déformons, c'est de là d'ailleurs que vient le cocasse. Donc la monnaie, ça fait partie du quotidien, enfin, la monnaie, le pouvoir de l'argent, ça fait partie des problèmes des gens. Hein, on a de l'argent ou on n'en a pas. Quand on en a, on a des problèmes qui sont incommensurables. Et quand on n'en a pas, on a d'autres problèmes qui ne sont pas moins grands. Mais ce n'est pas l'argent donc, qui nous intéresse, qui m'intéresse moi en tant que tel. L'argent, c'est pas grand-chose. Hein. C'est son pouvoir social. Et surtout, la réaction et l'attitude des gens vis-à-vis de la monnaie. Parce que suivant qu'on en a ou qu'on n'en a pas, on ne va pas réagir de la même façon. Il y a différentes façons d'appréhender le pouvoir de l'argent suivant son milieu social, son milieu culturel, sa fortune personnelle, son travail, enfin bref, tout ce qui fait la vie. Et suivant, par exemple, il y aura toujours des rapports de force entre riches et pauvres, entre possédants et possédés, entre l'État et le contribuable. Et nous, on sera toujours un petit peu du côté du pauvre face au riche ou du côté du contribuable face à l'État. Autrefois, on représentait souvent, maintenant ça se fait de moins en moins, le pauvre contribuable qui sort du bureau de la perception habillé dans un tonneau et l'État lui avait tout pris. Bon, maintenant, on ne dessine plus ça, mais on est toujours du côté de celui qui a été dupé, en fait, inconsciemment, qu'on le veuille ou non, même si c'est très féroce. Puisqu'on fait souvent une caricature, c'est toujours une méchanceté, puisqu'il y a quelqu'un de dupe, qui est quelqu'un de dupé, et quelqu'un qui dupe l'autre. Mais inconsciemment, on est toujours du côté du pauvre ou du côté de celui à qui il est arrivé l'histoire. Il paraît que l'humoriste, c'est un moraliste. On ne tient pas à faire de la morale spécialement. On cherche à s'amuser et surtout à amuser les autres. Hein. Mais au départ, on s'amuse soi-même. Sinon, si nous, on ne rit pas ou on ne sourit pas en faisant un dessin, on va pas le passer parce que ça devient de l'illustration. À ce moment-là, ce n'est plus un dessin d'humour. Mais il est certain que si on veut éplucher nos dessins, ce qu'on n'aime pas tellement, je pense que tous mes confrères diraient la même chose, on n'aime pas tellement être épluché parce que une idée nous vient comme ça, soit parce qu'on la travaille, soit parce qu'on la cherche, soit tout d'un coup parce qu'il s'est passé quelque chose dans la rue ou n'importe où qui nous a donné cette idée. Donc c'est plutôt spontané à partir du moment où c'est épluché, où c'est gratté, où on essaye de trouver la substantifique moelle pour parodier Rabelais. Ça nous intéresse moins, ça nous échappe d'ailleurs. Nous, une fois que c'est dessiné, bon ben c'est fini, c'est comme l'enfant échappe à son père, hein, la création échappe à son créateur. Peut-être pour démystifier ou démythifier cette monnaie qui est un pouvoir social, dont comme tout pouvoir social, comme toute institution, ça rejoint l'institution. Nous attaquons plus ou moins les institutions, quelles qu'elles soient de corps constitués ou bien plus sous-jacentes. On aime bien attaquer ce qui est important, ce qui est énorme. Et puis d'ailleurs, les gens le ressentent de la même façon, puisque ils ont souvent un problème avec cette monnaie. En les faisant rire, on les guérit un petit peu de la peur ou de l'appréhension qu'ils peuvent avoir face à cette énorme chose qu'est l'argent ou la monnaie. L'Almanach Vermeaux, c'est très populaire et qu'on le veuille ou non, j'aime à dire que ça fait partie de la culture de la France, puisque c'est quand même une tradition qui a 92 ans, on est bientôt centenaire et on essaye de faire rire les gens depuis cette époque-là. Et je me souviens d'ailleurs que dans les premiers exemplaires, vers 1886, il y avait déjà des dessins de gens face à l'argent, ceux qui en avaient, ceux qui n'en avaient pas, des problèmes de dévaluation, des problèmes d'inflation, enfin disons les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Et on retrouve toujours dans les caricatures ou dans les dessins humoristiques, je crois depuis tout temps, le problème de l'homme face à l'argent, puisque l'argent c'est un pouvoir social. Donc le problème de l'homme face à la société aussi, on peut aller jusque là.
Il est curieux de voir que le phénomène de la monnaie a touché presque toutes les civilisations, à travers toutes les époques et à travers un petit peu toute la géographie du globe. Mais il y a des exceptions, et elles sont notables. Par exemple, l'Égypte pharaonique, qui est une très grande civilisation, bien entendu, n'a pas connu la monnaie. L'Égypte n'a connu la monnaie qu'après la perte de son indépendance, c'est-à-dire finalement à la période hellénistique. Et les pharaons eux-mêmes n'ont pas battu monnaie, ils ne connaissaient pas la monnaie. Ils avaient sûrement des lingots pour faire des échanges, des bijoux, des objets, des instruments prémonétaires, mais de vraies monnaies, non, ils ne l'ont pas connue. Et puis plus proche de nous, il y a des grandes civilisations comme les civilisations d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, les civilisations précolombiennes notamment, qui n'ont pas connu non plus vraiment la monnaie. Elles ont utilisé des instruments que nous appelons encore une fois des instruments d'échange prémonétaires. Par exemple, il y a quelque chose de très joli qui est le tube constitué par la partie inférieure d'une plume d'oiseau et que l'on remplit de poudre d'or. Cela servait comme instrument d'échange, mais vous voyez bien que c'est tout de même pas une monnaie, c'est moins pratique à manier et ce n'est pas facilement garantissable par celui qui l'émet, si j'ose dire.
À Livaro, Calvados, il y a un menhir tournant, sous lequel se trouve un trésor, qui ne devient visible que le jour même de la Saint-Jean ou la nuit de Noël, et qu'on ne peut s'approprier qu'à ces moments.
Il y a de très vieilles traditions qui sont attachées, bien entendu, à la construction des maisons, aux poses des premières pierres, aux fondations. Et là, on retrouve encore une fois, bien entendu, la monnaie et son pouvoir spirituel, qui est lié à ces rites et à ces traditions. C'est une tradition très ancienne, puisque vous savez que chez les Perses de l'Antiquité, il y avait des dépôts de fondation où se trouvaient des monnaies. On en a notamment retrouvé à Éphèse, dans le fameux temple d'Artémis d'Éphèse, ce temple qui était une des splendeurs du monde antique et qui a été incendié en une seule nuit par un fou vraisemblablement, Hérostrate, dont le seul but était de laisser son nom à la postérité. Dans ce sens, hélas, il a réussi. Et coïncidence curieuse d'ailleurs, cet incendie de ce monument magnifique a eu lieu le jour même de la naissance d'Alexandre. Il y a une coïncidence sur laquelle on peut peut-être greffer des incidentes diverses. Eh bien, pour en revenir au temple d'Artémis d'Éphèse, les archéologues ont retrouvé des dépôts de fondation qui contenaient des monnaies. Et c'est une tradition qui vient donc d'Asie mineure et qui s'est un petit peu perpétuée dans la Grèce antique, mais très peu dans le monde romain. Par contre, alors, beaucoup plus proche de nous, à la fois dans le temps et dans l'espace, on trouve un tas de rites monétaires liés à la construction dans nos provinces. Il y a par exemple un rite qui existait, paraît-il, au XVIIIe siècle en Corse, qui était lors de la pose de la première pierre d'une maison. Il y avait une cérémonie où le maître d'œuvre de la construction, et les maçons, les ouvriers, le propriétaire et les amis étaient tous conviés, et on ajustait la pierre d'angle, n'est-ce pas, la pierre d'angle de l'édifice, qui était la première pièce, et le maçon faisait semblant de ne pouvoir donner l'équilibre à cette pierre. Et il demandait alors aux invités de jeter devant lui, devant cette première pièce, un nombre de monnaies, un grand nombre de petites piécettes. Et il prenait une de ces pièces, et à l'aide de cette pièce, il ajustait l'équilibre de la pierre d'angle, et ensuite le reste était distribué aux compagnons, aux maçons, aux ouvriers. Et alors vous voyez qu'il y a un rite très, très net qui est que la maison ne pourra vivre, ne trouvera son équilibre que grâce au pouvoir finalement talismanique de cette pièce.
La manière dont la mariée permet au marié de mettre et d'enfoncer l'anneau sur son doigt sert de présage dans toutes les régions de la France, au point qu'il est inutile de donner les références. La règle est qu'en recourbant le doigt, elle s'efforce d'arrêter l'anneau sur la deuxième phalange, afin d'être la maîtresse du ménage, ou de la maison, ou de dominer son mari. Parfois, cette coutume est accompagnée d'une véritable lutte qui dure quelque temps et que les curés, s'ils sont au courant, observent d'un regard amusé, mais qui parfois aussi les met en colère. Parmi les objets qui sont présentés aux prêtres en même temps que l'alliance afin qu'ils les bénissent, se trouvent dans plusieurs provinces une ou plusieurs pièces de monnaie, de cuivre rarement, plutôt d'argent et d'or, selon la fortune des familles intéressées. La bénédiction de ces monnaies a donné lieu à de nombreuses discussions, non seulement en France, mais aussi dans les pays germaniques, scandinaves et romans. Cette coutume, sous d'autres formes, existe aussi ailleurs qu'en Europe. La plupart des théoriciens ont voulu voir dans ce don plus ou moins cérémonialisé de pièces de monnaie à la future l'équivalent ou le symbole d'un ancien système de mariage par achat.
J'ai essayé de faire un petit peu l'inventaire des rites monétaires qui accompagnent la vie humaine. Et on s'aperçoit qu'ils sont finalement relativement nombreux et en tout cas très importants. Et les grandes étapes sont effectivement marquées par un certain nombre de rites monétaires. Alors peu à la naissance, il y a peu de rites attachés à la naissance, mais il y a énormément de rites monétaires attachés au mariage d'une part, et puis au décès, à la mort. C'est une très vieille tradition et je crois qu'elle est particulièrement intéressante parce que contrairement à ce qu'on affirmait encore récemment, c'est une tradition qui dure actuellement en France, qui est encore vivante. On donne encore ces deniers pour épouser, notamment dans le Bordelais, et j'en ai là un témoignage vivant par des récits que m'ont fait des gens qui vivent en Médoc et en Bordelais, notamment des prêtres, qui m'ont dit qu'actuellement, au jour d'aujourd'hui, on utilise encore le fameux treizain de mariage. Alors qu'est-ce que c'est que ce treizain ? Le treizain de mariage, c'est un ensemble de... Le treizain ou le douzain, la forme un petit peu variée. Le douzain ou le treizain de mariage, c'est un ensemble de 12 ou 13 pièces de monnaie ou imitations de pièces de monnaie que l'on donnait au cours de la cérémonie nuptiale. Alors, c'est une très vieille coutume, et sa forme, si vous voulez, a un petit peu varié au cours des temps. À l'origine, vraisemblablement, on donnait 12 ou 13 véritables pièces de monnaie. Puis, ce rite ayant pris une grande importance, on a créé des petites pseudo-monnaies, des imitations de monnaie spécialement faites pour ce rite. Et c'est ce qu'on appelle véritablement le douzain ou le treizain de mariage, qui sont en général des petites pièces d'argent très fines, contenues dans une petite boîte, elle-même en argent. Et c'est ce douzain ou ce treizain que le marié et la mariée remettaient au cours de la cérémonie nuptiale au prêtre, qui en gardait une partie pour lui, enfin pour l'Église, et restituait l'ensemble des pièces qu'il n'avait pas gardées au mari.
À Mareuil-les-Maux et dans d'autres villages de Seine-et-Marne, avant 1840, les Hauts de Noël se chantaient accomplis à partir du 15 décembre pendant 9 jours consécutifs. Le maître d'école, faisant fonction de chantre, désignait des gamins de 5 à 8 ans dits chantériaux pour chanter chacun un haut en présence seulement du prêtre, du maître et de tous les enfants de l'école. Celui qui avait terminé son « haut » était porté en triomphe par ses camarades, qui chantaient à tue-tête « Oh, oh, la chair vaut mieux que les os » jusqu'à la maison du héros, dont la mère jetait aux écoliers de pleines poignées de pommes, de poires, de noix et quelques gros sous qu'ils se disputaient à qui mieux mieux. La même scène se répétait chaque soir devant une autre maison. Cependant, l'antienne « haut » Emmanuel était réservée au curé, qui, s'il faisait beau, jetait aux enfants des dragées et des bonbons devant la porte du presbytère. Et s'il y avait de la neige, les leur distribuait dans l'église. De son côté, l'instituteur décorait un carton de 45 sur 50 cm de guirlandes, de pots de fleurs, d'un O et d'un M majuscule, inscrivait dans un cartouche la notation musicale de l'antienne chantée et dans un autre cartouche le nom du petit chantériau et la date. Les familles conservaient avec soin ce témoignage et le fixaient à la porte de l'escalier qui menait à la chambre du O. Le maître recevait un écu de 5 francs.
Il y a des rites monétaires associés au sacre des rois de France et on retrouve effectivement ce chiffre 13. En fait, je crois que la symbolique est relativement simple, comme elle est liée bien entendu aux traditions catholiques, chrétiennes et spécialement catholiques. On peut voir peut-être dans le treizain de mariage les 12 apôtres et Jésus-Christ. Alors, en ce qui concerne le sacre, on peut penser effectivement que l'offrande des 13 pièces, il ne s'agit plus du treizain, mais d'une offrande de 13 pièces qui fait partie des offrandes traditionnelles, du pain d'argent, du pain d'or, du vin offert dans un récipient de métal noble, et des 13 pièces qui étaient offerte par le roi à l'autel pendant la cérémonie du sacre. Et on peut penser, effectivement, par le nombre, ce fameux nombre 13 qui revient, qu'il y a une certaine, un certain parallélisme avec le 13 ans de mariage et que cette offrande de 13 pièces est peut-être le symbole du mariage du roi avec son peuple. Maintenant, il y a d'autres interprétations, par exemple celle des 12 pairs de France, n'est-ce pas ? Les pairs de France étaient au nombre de 12, et du roi qui fait la 13e personne. Alors, le rite monétaire associé au sacre n'est pas très facilement interprétable, mais il a des parallèles très proches avec d'autres rites.
Dans l'Orne, à Montméreil, canton de Mortrée, un trésor est caché sous la pierre tournoire qui s'ébranle tous les ans au soleil levant, la veille de la Saint-Jean-Baptiste. Elle se dresse, puis retombe en place. C'est pendant ce court moment qu'on peut s'emparer du trésor.
Ce sont des rites qui sont très anciens et très 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 répandus dans presque tous les pays. On rencontre le rite qui est d'ailleurs à peu près toujours le même, qui est celui de poser une ou plusieurs pièces de monnaie sur le cadavre. Les seules variantes, si l'on peut dire, que l'on observe, c'est l'endroit où cette pièce est posée. Le plus souvent, elle est posée dans la main, elle est contenue dans la main du mort, mais parfois aussi, on la trouve posée soit sur les yeux, soit même sur la bouche du corps. Alors dans ce dernier cas, il y a une interprétation qui est assez souvent avancée. Vous savez que beaucoup de croyances faisaient que l'on pensait que l'âme du mort pouvait être contenue dans son crâne et que si l'on bouchait les trous naturels, les cavités naturelles de ce crâne, on empêchait ainsi l'âme de sortir et de venir éventuellement gêner et embêter les survivants. Et on peut penser effectivement qu'à cette croyance est rattaché le fait d'obstruer par une monnaie l'œil ou la bouche du mort. Quant à la présence de la monnaie dans la main du cadavre, elle est très facilement reliée à l'idée générale de l'obol à caron, l'obol nécessaire pour passer ce très difficile passage entre la vie et la mort et de pouvoir accéder à peut-être un repos bien mérité, mais il fallait effectivement avoir de quoi payer la barque funèbre pour pouvoir arriver au royaume des morts. Le rite lui-même finalement est presque toujours le même. C'est celui de laisser aux morts une monnaie et il est extrêmement répandu dans tous les pays du monde. On le trouve à Madagascar, on le trouve aux Indes, on le trouve en France, bien entendu, et ce, pratiqué encore vraisemblablement au XIXe siècle.
Dans les trois jeudis précédant Noël, pendant la nuit, les garçons et les filles se rendent de maison en maison, frappent aux portes, font connaître par des chansons la prochaine naissance du Seigneur et souhaitent une année bénie. En échange, ils reçoivent des habitants de la maison des poires, des pommes, des noix et aussi des pièces de monnaie.
Les offrandes de monnaie sont des choses très répandues et depuis très longtemps. Et en France, notamment, il y a beaucoup de vieilles traditions. Lorsqu'on feuillette un petit peu les livres d'ethnologie ou, comme on disait dans le temps, de folklore consacrés à ce sujet, on retrouve énormément de traditions qui sont fort intéressantes, notamment en ce qui concerne les offrandes aux roches, aux rochers, et puis les offrandes aux sources, aux lacs, à tout ce qui a trait à l'eau et aux divinités de l'eau. Alors pour les rochers, il y a ces fameux rochers qui ont des cavités, des anfractuosités, des trous dans lesquels on vient mettre l'endroit qui est malade et ensuite on met une monnaie comme offrande. Il y a aussi les fameux rochers portant soi-disant des empreintes de saints ou d'animaux qui ont été liés à la vie des saints et dans lequel on vient aussi procéder à tout un rite qui est accompagné d'un dépôt de monnaie. Et puis il y a alors, au fond encore peut-être plus amusant, les monnaies talismaniques, les monnaies qui portent bonheur et qui garantissent peut-être la santé. Ce sont des monnaies qui, pour des raisons qu'on ne connaît pas finalement très bien, ont toujours eu la réputation de porter bonheur. Ainsi, on a des thalers, des pièces d'argent allemandes, notamment des thalers de Mansfeld, qui ont toujours eu, peut-être parce qu'elles portent comme type le Saint-Georges sur son cheval, terrassant le dragon, qui ont toujours eu la réputation de porter bonheur. Et alors là, ce qui est très curieux, c'est que comme pour les vins, il y a des bons crus et des mauvais crus. Il paraît, enfin, dans le temps, on disait que certaines années d'émission de thaler étaient meilleures que d'autres. Vous voyez que la croyance va très loin jusque dans les détails.
Au premier chant du coucou qu'on entend au printemps, il faut faire sonner les pièces d'argent que l'on a dans sa poche.
On voit à quel point la monnaie a du pouvoir, a un rayonnement de pouvoir, puisque, si vous voulez, c'est le problème des reliques, n'est-ce pas, de la Passion, et des fameuses pièces, des fameuses 30 deniers avec lesquelles Judas a vendu le Christ. Bon, on sait maintenant d'une manière historique, sûre, que ces pièces étaient des pièces qui sont finalement assez courantes, que l'on retrouve encore, qui sont des deniers d'argent frappés sous l'empereur Tibère. Alors évidemment, nous connaissons le type de pièce, mais nous ne savons pas comment localiser exactement les 30 deniers eux-mêmes que Judas a tenus dans la main, n'est-ce pas ? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des traditions qui font que dans certaines églises, on retrouve telle ou telle pièce qui est décrite comme étant un des deniers de Judas. Or, ce qu'il y a de très curieux, justement, c'est que parmi ces quelques pièces, ces quelques reliques, je crois qu'il y en a à peu près une douzaine, eh bien, parmi ces 12 pièces, il n'y en a pas une seule qui soit un denier de Tibère. Donc, obligatoirement, ce sont de fausses reliques, n'est-ce pas ? Et ce sont de fausses reliques et néanmoins, elles ont eu tout leur rôle, toute leur efficacité, toute leur vertu. Marc Bloch, le grand historien qui a disparu tragiquement pendant la guerre, a laissé un livre dessus qui est un très beau livre et qui raconte un petit peu justement comment est né et comment s'est développé le pouvoir des rois thaumaturges. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette œuvre de Marc Bloch et dans la question elle-même, c'est bien entendu le côté du rite monétaire qui est lié à ce pouvoir. Alors ce rite est beaucoup plus fort, numismatiquement parlant, en Angleterre qu'en France. Si les rois anglais et les rois français ont vraisemblablement le même pouvoir et la même efficacité pour guérir ce qu'on appelait les scrofuleux, eh bien, ils ne pratiquent pas leur guérison de la même manière. Et on va voir, tout au cours des siècles, s'élaborer en Angleterre un rite qui va privilégier un certain aspect monétaire. Alors, très rapidement, il faut que je vous explique comment ça se passait. À l'origine, si vous voulez, vers le 11e ou 12e siècle, les rois se contentaient de toucher le malade, c'est le fameux toucher des malades, en prononçant vraisemblablement une phrase du genre « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Et puis, peu à peu, il y a eu tout un rite, toute une cérémonie associée à ce toucher, et notamment la distribution de dons, d'oboles, n'est-ce pas ? Aux malades qui avaient défilé devant le roi, on leur donnait une aumône, si vous voulez. Et en France, ce rite de distribution d'aumône n'a pas pris une prépondérance. Tandis qu'en Angleterre, la partie liée à la distribution de la pièce a pris un rôle tout à fait fondamental dans le rite du toucher lui-même. À tel point que les malades, après avoir été touchés, devaient redéfiler devant le roi d'Angleterre qui leur donnait une pièce d'or. Les fameux anges d'or, c'était des pièces qu'on appelait des anges parce que elles étaient à l'effigie de Saint-Michel. Et il était de tradition que le malade, une fois touché, et ayant reçu la pièce des mains du roi, la troue et la suspende à son cou. Il garde ainsi toute sa vie en gage de guérison effectuée et pour pallier toute rechute éventuelle. C'est une nouvelle forme de l'ange gardien. Et même à la fin, alors, à la fin de cette tradition, disons vers le 16e, 17e siècle, la cérémonie évolue encore et vraisemblablement le roi anglais utilise la monnaie elle-même pour faire le signe de croix sur le malade. Et finalement, nous retrouvons toutes ces belles monnaies qui sont devenues des monnaies pratiquement utilisées seulement pour le cérémonial du toucher. Nous les retrouvons maintenant toutes trouées.
L'argent, c'est comme les femmes. Pour le garder, il faut s'en occuper un peu. Ou alors, il va faire le bonheur de quelqu'un d'autre.
Tout le rituel des monnaies d'offrande du taoïsme en Chine est aussi un rituel monétaire, finalement, lié à des valeurs symboliques et spirituelles. Pour expliquer un petit peu ce dont il s'agit, je crois qu'il faut très rapidement expliquer quelle était un petit peu la mentalité chinoise au XIIe siècle à peu près, dans le contexte spirituel et économique. C'est un moment où la Chine va connaître un grand développement économique fondé surtout sur le développement de la banque et des échanges bancaires. Et la Chine, vous savez que la Chine a connu la monnaie métallique avant nous, avant l'Occident. Elle a connu aussi le billet avant nous. Et alors, il se trouve qu'en dehors des utilisations purement économiques du billet, il y a dans la religion taoïste une utilisation tout à fait étonnante qui est celle des billets liés à ce que l'on appelle la trésorerie du ciel. Voilà en gros ce dont il s'agit. Pour les taoïstes, lorsque quelqu'un naît, au moment de sa naissance, il a une espèce de compte en banque dans la trésorerie du ciel et les puissances divines, les puissances célestes, lui donnent un certain crédit qu'il va pouvoir dépenser pour accomplir sa vie. Mais pour que les comptes soient bons, évidemment, il fallait, après la mort, restituer sa dette. Il fallait payer sa dette auprès de la trésorerie du ciel, sinon il aurait pu se passer des choses tout à fait affreuses. Et pour payer sa dette, il y avait une cérémonie spéciale qui s'appelait la cérémonie de la restauration de la dette, qui était faite par les parents de la personne qui était morte. Et dans cette cérémonie très curieuse, on brûlait de l'argent. Ce qui n'est pas tellement ordinaire, n'est-ce pas, de brûler des liasses de papier. En fait, on ne brûlait pas vraiment du papier et monnaie qui avait cours, mais on brûlait des papiers monnaie spéciaux, des billets de banque spéciaux, qui étaient faits pour cet usage. Et alors, il y a quelque chose d'encore plus curieux, c'est que il pouvait arriver qu'on fasse une cérémonie de ce genre avec un grand incendie de monnaie, papier, pendant la vie même de quelqu'un. Cela arrivait lorsqu'il y avait un concours de circonstances qui accumulait, par exemple, des événements heureux d'un caractère trop excessif sur une même destinée. Alors on pensait qu'à ce moment-là, évidemment, on dépensait à toute vitesse le crédit qui avait été donné par la trésorerie du ciel. Et que par conséquent, si l'on voulait continuer à vivre, il fallait se faire voter à nouveau, si on peut dire, un crédit. Et pour que l'on puisse avoir ce supplément de crédit, il fallait déjà rembourser une partie de sa dette. Et à ce moment-là, on faisait une cérémonie spéciale qui était la cérémonie de la restauration du destin, avec les monnaies du destin fondamentales, qui étaient au fond un petit peu l'équivalent des monnaies qui étaient utilisées après la mort des personnages.
Lorsque le dimanche des rameaux, la procession s'arrête devant les portes closes de l'église, une cachette pratiquée dans les murs du château de Lormeteau, en Berry, s'ouvre d'elle-même et laisse voir le trésor gardé par le diable. Une femme, ayant son enfant à la mamelle, eut jadis l'audace d'y pénétrer, et pour remplir son tablier des pièces du monceau d'or qu'elle découvrit, elle posa l'enfant et sortit, emportant une faible partie du trésor. Puis elle revint précipitamment chercher son nourrisson. La muraille s'était refermée, et c'est en vain que la pauvre mère affolée implora la Vierge et les saints. La nuit suivante, une fée lui apparut et lui dit « Ne pleure plus. Dans un an, jour pour jour, heure pour heure, ton enfant te sera rendu si tu rends, toi, intégralement tout ce que tu as pris. Mets tous les samedis soirs une chemise blanche au pied du mur, vis-à-vis de la cache. Tous les dimanches matins, tu trouveras à la place la chemise sale de la semaine. Ainsi fut fait. L'année suivante, au dimanche des rameaux, à l'instant précis où le prêtre s'arrêtait à la porte de l'église, la muraille s'entr'ouvrit de nouveau. La mère courut reporter le trésor à sa place, reprit son fils, et la muraille se referma pour toujours. Quant à l'enfant, il avait grandi, profité, et il se portait à merveille.
Dans la tradition populaire, le diable est le fournisseur d'argent, le fournisseur d'or. Les sorciers qui sont amenés à le rencontrer, par hasard, au détour d'un chemin, cherchent à obtenir de lui, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il les séduit, les moyens de se venger de leurs ennemis et également de survivre, puisque la vie paysanne est extrêmement délicate et difficile. Donc, il leur promet de l'argent, de la fortune, et c'est le premier point qui leur permet d'accéder à la sorcellerie. Malheureusement, les exemples en sont multiples, le diable ne paye jamais qu'en une monnaie provisoire. Ainsi, ou bien ils ne sont payés qu'en promesses, ou bien lorsqu'ils reçoivent de l'argent, cet argent se transforme soit brusquement en feuilles mortes, ou en bouse, ou en crotte, ou en merde carrément, hein. Et cet argent, donc, laisse une odeur un petit peu méphitique. Et il ne l'utilise jamais. On a l'exemple, par exemple, d'un sorcier, un paysan du Berry, qui raconte que, après toutes les promesses que le diable lui a faites, finalement, celui-ci ne lui a donné qu'un quart d'écu. Et il s'est aperçu par la suite que ce quart d'écu était faux. Et il raconte comment il avait toutes les peines du monde à le replacer, le remettre en circulation. Cela rejoint à la fois la théorie du diable, selon laquelle le diable ne peut pas bien faire. Il est exclu que ce qui vient du diable puisse avoir une efficacité quelconque dans le monde réel. Et l'idée toute bête que bien malaquis ne profite jamais.
Le procès des sorciers du Carrois Marlou, qui se déroule dans un petit village près de Sancerre, dans le Berry, pendant l'hiver 1582-1583, a pour origine la possession d'un garçon d'une douzaine d'années par le diable. Il accuse deux hommes de lui avoir mis le diable dans le corps. Les interrogatoires des deux accusés entraîneront d'autres accusations, l'affaire se soldant par 4 exécutions capitales et un suicide. L'un des premiers accusés, Jean Tabourdet, dit des Bertilles, âgé de 53 ans, sergent et couvreur de maison, réputé sorcier depuis 15 ou 20 ans, s'abandonne lors de son 4e interrogatoire à dire la vérité. Son récit fournit d'intéressants détails, très représentatifs de la majorité des cas. Il commence ainsi. Il y a 10 ans ou environ, alors qu'il retournait de couvrir une maison et rentrait chez lui un soir d'été, il rencontra une forme d'homme noir qui lui demanda pourquoi il se donnait tant de peine à travailler jour et nuit, et que s'il le voulait croire et se donnait à lui, il lui donnerait les moyens de vivre beaucoup mieux à son aise, et même lui fournirait l'argent pour racheter le lieu des Tabourdets qui avait appartenu à ses pères et oncles défunts. Et en disant ces mots, il lui montra un sachet qui semblait être plein d'or et d'argent. Il lui promit aussi qu'il aurait plusieurs autres biens et vivrait à son aise sans rien faire. Vu lesquelles promesses, l'accusé fut d'accord d'être à lui. Toutefois, il dit qu'il ne lui demanda pas autrement qui il était, parce qu'il avait bien opinion que c'était le diable. Celui-ci, en cette occasion, ne lui parla point de renoncer à Dieu. Il le conduisit, lui faisant toujours les mêmes promesses, jusqu'à sa maison, où il lui donna un petit sac avec l'argent qu'il cacha en son logis sous son métier à tisser. Il ne voulut pas y regarder alors, de peur que sa femme et les gens de la maison ne la remarquassent. Le lendemain, il décide de porter l'argent au bourg de Concresdo et là de prendre conseil pour le faire accepter par maître Bernard Thibault qui avait acheté le lieu des Tabourdets. Mais le matin venu, il ne retrouva ni sac ni argent et l'homme en question ne vint pas le voir et il ne l'a pas vu pendant 5 ans.
Même si bien malaquis ne profite jamais, le but de tout un chacun est de faire fortune, c'est bien connu. Et on utilisera tous les moyens possibles pour y parvenir. Alors, un excellent moyen, c'est celui, effectivement, de se lier au diable. Alors, les paysans se font dans la plupart des cas avoir par le diable, mais il existe une catégorie de personnes qui sont liées d'une façon plus ou moins étroite au diable, qui sont des savants magiciens, qui eux, au contraire, au lieu d'être soumis au diable comme le sont les sorciers qui deviennent idolâtres, dominent le diable, c'est-à-dire sont capables de faire appel à lui et de lui donner des ordres, ce qui fait qu'ils n'encourent pas finalement les mêmes peines que les sorciers, c'est pas tout à fait la même catégorie de personnages. À partir du moment où ils soumettent le diable à leurs ordres, ils ne sont plus idolâtres et par conséquent ils ne tombent pas sous le coup des mêmes peines. Il n'y a pas crime de lèse-majesté divine, si vous voulez. Et ces sorciers magiciens ont alors dans leur livre toute une succession de recettes pour faire venir le diable et lui faire avouer où sont cachés les trésors. Ça rejoint l'idée donc que le diable connaît les sources de la fortune, connaît où sont les trésors, et en quelque sorte qu'il est le gardien de ces trésors. On peut ainsi faire une comparaison supplémentaire, parce qu'il en existe déjà, il existe déjà de nombreux points de comparaison entre le diable et la divinité antique Saturne, qui est elle aussi gardienne des trésors. Ainsi, à Rome, le temple de Saturne se confondait avec le trésor de la ville. Saturne, qui est un dieu caché, celui de l'âge d'or, qui vit en dehors du temps, en dehors de l'espace, et on a d'ailleurs fait souvent la comparaison entre le Saturne de l'âge d'or et le diable prometteur de richesses, prince du monde à l'envers, qui est un petit peu le monde de l'âge d'or auquel rêvent, consciemment ou non, les paysans.
Le mélancolique, terrorisé à la fois par son passé et par son futur, est semblable à cette femme enceinte qui, oubliant ou rejetant le moment de grâce qu'il a labouré, ou l'ensevelissant dans l'obscurité d'une mauvaise mémoire, s'interrogerait sans cesse sur le fruit qui mûrit en elle, en lui prêtant tous les visages de la monstruosité, ou en le regardant comme une sorte d'étrange végétation qui l'envahirait peu à peu, emprisonnant sa chair comme de l'intérieur, repoussant lentement, inexorablement les limites de son propre corps. Ces imageries s'épanouissent dans le nocturne de la vie, là où notre propre éternité nous fait signe par surprise, nous dévoilant brusquement un paysage de nous-mêmes qui nous était resté jusque-là inconnu. Ainsi, toutes les fleurs ténébreuses qui dans le cœur humain s'enracinent sortent-elles du souterrain pour se révéler dans leur rigueur empoisonnée. Ainsi, les visages lisses se revêtent-ils de rides noires qui sont les sillons du souci.
La tradition est très ancienne. Elle se fonde sur la médecine traditionnelle, selon laquelle le monde est divisé, enfin les habitants du monde sont répartis en quatre tempéraments, dont le plus important et le plus noir, le plus important pour notre sujet est celui du caractère mélancolique, qui fait que les personnages qui dépendent de ce caractère sont soumis à l'influence particulière de la planète Saturne. Et ce Saturne est une divinité totalement maléfique dans l'astrologie traditionnelle. Et les sujets de Saturne, disons les enfants de Saturne, comme on le dit dans... tel est le mot dans l'imagerie traditionnelle, les enfants de Saturne sont les mendiants, les éclopés, les paysans, les laboureurs et un tas d'autres, mais enfin généralement des gens de petites conditions, ou alors des savants magiciens et nécromanciens. D'ailleurs, il existe un texte astrologique, plusieurs textes astrologiques, j'en peux prendre un exemple, celui de Ali Ibn Raguel, qui décrit les enfants de Saturne, notamment ceux qui sont nés sous une conjonction Saturne-Mars, comme des pilleurs de tombes et des nécromanciens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont être capables de fouiller dans les trésors, dans les tombes, pour y retrouver les trésors qui ont été amassés par des générations. Et également, ce vont être les seuls qui vont être capables, par leur connaissance, de retrouver exactement l'endroit où les trésors ont été enfouis et en même temps de lutter contre les mauvais esprits qui hantent généralement les cimetières, ne serait-ce que les habitants, hein, les habitants des tombeaux. Alors, il est normal que les mélancoliques, ou les, disons, plus pour préciser, les sorciers, soient liés de façon très très étroite avec le démon, et par conséquent également avec les trésors enfouis. Et c'est une tradition qu'on retrouve dans un très grand nombre de contes populaires. Il arrive fréquemment qu'une fée ou qu'une vieille sorcière indique à un jeune homme méritant ou à une jeune fille l'emplacement d'un trésor. Ce trésor fera la fortune de la personne qui l'aura ainsi trouvé. Mais bien souvent, c'est aussi le moyen de punir quelqu'un de mauvaise vie. Enfin, il y a une moralité, naturellement, dans les contes populaires. Et bien souvent, c'est un piège. On promet un trésor, et le diable, payant toujours d'une façon cruelle ceux qui se laissent prendre à ses filets, les perd d'une façon ou d'une autre en récupérant leur âme ou en les faisant mourir dans d'atroces souffrances.
Et c'est à travers le déchiffrement du territoire des enfers que le destin de Saturne va se trouver associé à celui du diable. La fusion de ces deux vocations divines contrariées s'accomplit à travers quelques imageries fondamentales qui vont trouver une incarnation précise dans le tumulte des passions du bas Moyen-Âge. La première est celle du rebelle. Saturne est celui qui a porté une main criminelle sur le Père, qui a donc introduit un désordre irrémédiable dans le plan général de la création. Il témoigne de la première révolte qui a bouleversé l'ordre encore précaire du vivant. Cette rébellion introduit dans le monde cohérent, qui doit être celui de la société hiérarchisée, un principe de liberté dont les errances sont pleines de périls. L'exil du Père, condamné à se retirer dans son espace céleste, figure l'abandon possible de Dieu, son retrait hors des lieux humains. Cette rébellion, Satan en est sur le plan chrétien, le visage emblématique. Saturne et Satan partagent le même espace, celui des ténèbres, celui du feu et de la boue, et celui de l'éternité des peines. Ils sont l'un et l'autre les témoins déchiquetés de la damnation.
Il y a entre Saturne, la divinité ancienne et complexe, puisqu'on y trouve aussi bien donc le personnage de l'âge d'or que le personnage du temps, hein, puisque ça, il y a eu des calembours qui se sont faits et des confusions qui se sont faites. On trouve dans Saturne et dans Satan des points de comparaison. On dit les mots Saturne et Satan, il y a une espèce de rapport phonique, enfin de rapport phonique, mais ça ne veut pas dire du tout que ça signifie la même chose, naturellement. Mais on peut se demander, comme beaucoup d'histoires fonctionnent par calembour, si malgré tout on n'a pas fait un rapport entre les deux. Toujours est-il que les caractéristiques, notamment astrologiques, de la planète Saturne ressemblent de très près aux caractéristiques des suppôts de Satan. Un saturnien, c'est-à-dire quelqu'un qui est né généralement au mois de décembre, hein, sous le signe du Capricorne, ou quelqu'un qui est né à une date indéterminée, mais qui a dans son ciel de naissance Saturne placé dans une position particulière, et quelqu'un qui d'abord est mélancolique, c'est la fonction principale. Alors là, les mélancoliques, ce sont en général des visionnaires, des gens qui voient les choses, des gens qui savent les choses, et également qui ont un certain nombre de défauts, si vous voulez. Il y a un certain nombre de qualités qui sont propres aux Saturniens, un certain nombre de défauts. Astrologiquement, cela peut se différencier selon le bon aspect ou le mauvais aspect de la planète Saturne. Enfin, lorsqu'on est né sous un mauvais aspect de Saturne, eh bien, on a des défauts qui sont particuliers et qui font penser de très près aux activités des sorciers, ou en tout cas des magiciens, tous ceux qui ont rapport avec le diable. Par conséquent, les sorciers, les saturniens sont catalogués, les sorcières sont des saturniens, les magiciens sont des saturniens, les savants le peuvent l'être aussi, à condition que ce ne soient pas des savants rationalistes à tout craint. Et de même, on retrouve dans l'iconographie du diable un certain nombre de rapports avec l'iconographie de Saturne. Notamment le fait que tous les deux sont boiteux. Saturne est une divinité boiteuse. Alors depuis quand, on ne sait pas exactement, c'est quelque chose qu'il faudrait arriver à définir. Mais probablement parce que Saturne à la fois représente le temps et une durée très longue. Saturne étant la plus grosse planète autrefois connue du système, c'était celle qui parcourait son orbite avec le plus de temps. Et par conséquent, on estimait que Saturne était lent, mais en même temps que cette lenteur avait quelque chose d'inexorable, c'est-à-dire que ça représentait un petit peu la marche du temps. Et l'aspect du temps boiteux qui, malgré tout, passe très très vite, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans la sorcellerie. Lorsque les sorciers vont au sabbat, d'abord ils y vont à l'envers. Ça c'est un cas particulier, un aspect particulier de l'inversion, mais qui est caractéristique plutôt du diable et un petit peu du Saturne de l'âge d'or, où toutes les choses se font à l'envers. Mais le meneur de la danse au sabbat, ceux qui vont le plus vite, ceux qui dansent le plus librement, sont les boiteux, justement. Hein, on est dans le système de l'inversion, et en même temps, on est dans le système de la boiterie. Enfin, Lévi-Strauss a fait plusieurs choses, a recueilli plusieurs histoires sur les boiteux et les changements de temps. Hein, ce sont des personnages qui sont liés au temps, au calendrier. Et le moment où on change le plus de temps, si vous voulez, c'est au moment de Noël, au moment du cycle des 12 jours, au moment du changement d'année. Hein, et justement, à ce moment-là, il se passe des tas de choses. C'est la période pendant laquelle les portes s'ouvrent, si vous voulez. Les démons ressortent du sol. Hein, les démons sortent, les mauvais esprits, les morts apparaissent à la surface de la terre. Et c'est le moment privilégié de la naissance du Christ. Hein, à peu près, c'est à peu près à cette date-là que pendant 12 jours, le monde se retrouve un petit peu à l'envers. Alors, c'est aussi un moment où on a fêté pendant des années, enfin des centenaires, des siècles, le carnaval. Il y a des rapports assez étroits entre le diable boiteux et les personnages de carnaval.
Le trésor des ruines de Rimaison, à Bieuzy, dans le Morbihan, se trouve dans un souterrain. On y entend comme un bruit de grelots de chevaux. C'est le diable qui annonce ainsi qu'il fait bonne garde, honnêtement, car il lui serait facile de le transporter en enfer. C'est lui aussi qui emporta deux hommes qui, pendant la nuit de Noël, tentaient d'enlever le trésor des Templiers à Plestan, côte du Nord. Il n'apparaît que tous les 100 ans, pendant que sonnent les 12 coups de minuit, au jeûne de la Toussaint ou de Noël. Et encore, les trésors emportés tombent en poussière si vous ne donnez en retour une âme baptisée. Il faut la mort d'un chrétien pour que le démon vous laisse jouir en repos des richesses de Plouinec.
Il n'y a qu'une sorte de pacte avec le diable. Celui qui veut se soumettre au diable donne toujours son âme en échange. Il y a entre les petits, les paysans et les savants, les intellectuels, une différence de statut, aussi bien de statut social que statut intellectuel. Et cette différence s'exprime dans le fait que les premiers, c'est-à-dire les paysans, eux, sont obligés en quelque sorte de faire un pacte avec le diable, ils n'ont pas les moyens de se défendre contre lui, et ils signent une pièce de papier, ou ils imaginent, ou ils font simplement un accord verbal, comme on faisait dans la paysannerie, et comme on en fait encore. Et puis le contrat est passé. Mais les magiciens, eux, dans bien des cas, n'ont pas besoin de signer un pacte avec le diable. Ils sont pas fous. Ils savent ce qui les attend s'ils le font. Et par conséquent, ils cherchent surtout à soumettre le diable à leur volonté. Il y a un aspect tout à fait différent. D'un côté, la soumission totale qui mène à l'adoration du diable lors des sabbats, et qui est la preuve pour les démonologues et pour les chasseurs de sorcières que les coupables sont vraiment coupables du crime le plus grand qui soit, crime de lèse-majesté divine, qui est d'adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. Tandis que les magiciens, eux, s'ils ne succombent pas, s'ils ne mettent pas leur âme en marché avec le diable, eux peuvent le dominer et obtenir de lui satisfaction sans pour autant encourir les foudres de la justice de la même façon.
C'est à la suite d'événements en rapport avec le diable ou la magie que certaines rivières roulent des paillettes d'or. Celles de Laurence, dans la partie au-dessous de Limoges, viennent de ce que la petite rivière a effleuré le roc d'enfer qui contient le trésor du diable. Et une légende raconte que la Jordane, qui coule à Aurillac, est devenue aurifère après une opération magique faite par Gerbert, qui depuis fut pape et était un habile sorcier. Ayant demandé un jour au doyen de son monastère s'il voulait être le témoin d'un miracle, il le conduisit au bord de la rivière. Après avoir tracé des cercles et prononcé des paroles kabbalistiques, Gerbert frappa la Jordane avec une baguette qui paraissait enflammée. Soudain, les eaux, de bleus éclairs qu'elles étaient, se changèrent en flots d'or, si bien que pendant un instant, l'or coula par larges nappes entre les deux rives. Le doyen épouvanté se jeta à genoux, priant Dieu mentalement. Et le charme cessa. Mais depuis, la Jordane a roulé des paillettes précieuses.
Les sorciers, enfin ceux qui sont accusés de sorcellerie, cherchent à avoir quelque chose, hein, parce qu'ils n'ont rien. Le problème, c'est celui-là, je crois qu'on le rencontre dans tous les procès, et c'est la misère la plus totale qui règne dans la campagne. Ils n'ont pas de pain, ils n'ont pas de blé, ils n'ont pas de vin, il leur manque toujours quelque chose pour vivre. Ils ont des familles nombreuses à faire vivre, il y a l'hiver qui est passé par là, la peste qui était la saison précédente. Il y a toujours un problème terrible, ils sont dans le dénuement le plus total. Et tout d'un coup, au détour d'un chemin, ils rencontrent une espèce de personnage bizarre, une espèce de grand homme noir. C'est généralement la forme sous laquelle le diable apparaît, qui a un petit air seigneurial comme ça, et qui insiste, qui leur dit « donne-toi à moi et tu pourras te venger de tes ennemis ». Et en même temps, je te donnerai de l'argent pour obtenir tout ce que tu rêves d'obtenir depuis très longtemps. Et autant qu'on puisse en juger, d'après les procès qu'on a pu voir, le pacte se décide extrêmement rapidement. Le sorcier fait, du moins c'est ce qu'il dit à justice, il dit « oui, je d'abord dis non ». Parce que vraiment, le diable, c'est une affaire sérieuse. Et puis, comme il insistait, et que malgré tout, je n'avais rien, eh bien, je me suis dit, signons, soyons d'accord pour ce pacte. Et malheureusement, il est toujours trompé. Il obtient donc de l'argent en monnaie de singe. Il se retrouve prisonnier. Et le diable ne l'aide pas du tout. Hein. Ça, c'est d'ailleurs une autre tradition qui remonte peut-être beaucoup plus loin et qui n'est pas seulement forcément une tradition morale, qui est que le diable attire à lui des suppôts et les exécute en quelque sorte pour lui-même. Enfin, on retrouve ça dans des traditions du nord de l'Europe, les traditions odiniques, avec Odin, qui cherche à favoriser certains des personnages qu'il a remarqués, et il n'a de cesse finalement que de les perdre. C'est-à-dire qu'il leur donne effectivement honneur et gloire, il les soutient pendant toute leur existence, et puis un jour il décide de les rappeler à lui et il les entraîne dans la mort.
Au bout de 8 jours, l'enfant avait accompli sa croissance. Il était haut d'environ 3 pieds et demi. Braca avait déjà soupçonné son existence. Lui, de son côté, n'ayant pas envie de se voir enfermé toutes les fois qu'elle viendrait, résolut de se montrer à Braca. Il découvrit une vieille robe brodée d'argent qui avait appartenu à la mère de Bella et que celle-ci lui ajusta du mieux qu'elle put. Puis, un soir, il s'assit dans un coin et fit semblant de lire lorsque la vieille entra. Bella lui dit que c'était sa cousine, une très riche demoiselle, qui allait vivre avec elle et qui avait l'intention de faire un cadeau à Braca. La vieille se mit en devoir de faire un compliment et prit la main de la cousine pour la baiser. Mais en sentant une main rude et âpre comme une racine, elle hésita à y appuyer ses lèvres. Cela humilia le petit homme, qui lui lança un violent soufflet. La vieille, furieuse, se mit à vomir contre lui les poings sur les hanches les plus violentes injures. si bien que Bella ne put l'apaiser qu'en lui faisant craindre d'éveiller l'attention des voisins et de faire découvrir leur retraite. Cependant, le petit homme ne s'était pas intimidé des injures de la vieille. Il se mit à sauter autour d'elle et à la poursuivre en lui donnant des coups de pied. Mais en faisant tous ses mouvements, son voile tomba, et la vieille, l'ayant reconnu pour ce qu'il était, vint lui faire des excuses en tremblant. Lorsqu'il lui eut donné la paix, elle s'assit, toute brisée, sur une chaise. « Oh, Bella, dit-elle, que tu es heureuse d'avoir un petit homme comme cela qui peut découvrir et déterrer tous les trésors. Mon beau-frère en avait un, qu'il appelait Cornelius Nepos. » « Moi aussi, je veux m'appeler ainsi, dit le petit. Et qu'est-il devenu ? Mon beau-frère fut tué d'un coup d'épée, on trouva le petit homme dans sa poche, et on le donna à des enfants qu'il allait reporter à un cochon. Celui-ci le mangea et en creva. » Le nouveau sire de Cornelius fut très fâché de cela, et il supplia instamment qu'on ne le donnât pas au cochon. Puis, il demanda la description de cet animal. La vieille voulut lui faire comprendre qu'il n'avait pas à s'inquiéter du monde, ni de ce qu'on y mangeait, mais qu'il devait chercher des trésors et ne pas s'occuper de l'avenir. Comme le petit Cornelius faisait mine de s'impatienter, elle chercha à l'apaiser en lui exposant tous les honneurs auxquels il pourrait parvenir. Il y a chez les enfants chétifs une intelligence et une pénétration souvent extraordinaires. Comme s'il avait déjà vécu une fois la connaissance des choses humaines lui revint tout à coup. Indifférent à tous les tableaux que Braca lui avait fait de la vie délicieuse des boulangers, des sommeliers, rien ne le séduisait autant qu'un bâton de maréchal. Vêtu d'un brillant costume, comme celui du maréchal dont le portrait était au château, galoper à la tête de milliers de cavaliers et recevoir leurs hommages, voilà ce qu'il voulait. Aussi ordonna-t-il que dans la maison, on ne l'appelât jamais autrement que le maréchal Cornelius. « Et pour cela, il faut de l'argent, dit la vieille. Ici-bas, rien pour rien. De l'argent ! De l'argent ! Crie sans cesse le monde. « Quant à l'argent, je m'en charge, répondit le petit homme. Aussi bien, je ne suis pas tranquille ici. Il doit y avoir un trésor caché dans ce coin. » La vieille se mit aussitôt à gratter avec ses ongles la pierre qu'il avait indiquée. Puis, comme cela n'allait pas assez vite, elle prit une barre de fer qui fermait la porte et se mit au travail. Par bonheur, le trésor était immédiatement derrière cette pierre. Au reste, tous les coups de pied du maréchal ne l'auraient pas empêché de traverser le mur tout entier. Aussi, sans se troubler des morsures et des égratignures du petit, elle amena bientôt une grosse cassette remplie de beaux écus d'or et d'argent.
Parmi les moyens pour rechercher des trésors, bon, on a vu qu'il y avait l'utilisation de cercles magiques avec des magiciens donc expérimentés et qui connaissent toutes les astuces qu'ils retrouvent dans des livres, ils étudient, enfin l'étude d'ailleurs a un aspect un petit peu négatif. Bien souvent, pour une certaine catégorie de population, on peut estimer que ceux qui lisent dans les livres sont des gens un petit peu étranges, un petit peu bizarres, et tous ceux qui ne participent pas simplement à un enseignement, qui ne font pas recirculer l'information, sont des gens qui sont considérés comme un petit peu à part. Ce sont encore des Saturniens, ces gens-là, hein, ceux qui font de l'étude pour l'étude, ceux qui recherchent dans le passé l'histoire, qui cherchent les événements un petit peu curieux, qui ont une vision un petit peu différente du monde que celle qui est enseignée à ce moment-là par l'école aristotélicienne. Sont des gens un petit peu à part. Et ce sont aussi donc des Saturniens. On soupçonne chez eux des rapports plus ou moins secrets et plus ou moins fréquents avec, sinon le démon lui-même, du moins une partie de l'au-delà, si vous voulez, qui n'est pas tout à fait saine. Alors ces savants donc connaissent tous les trucs et en dehors de leur cercle magique, ils peuvent utiliser... Si, parce qu'ils sont les seuls à pouvoir l'accueillir, ils peuvent utiliser la mandragore. La mandragore qui est une plante un petit peu bizarre, un petit peu un mélange de plantes et d'humanité qu'on recueille sous les gibets dans des conditions très particulières, par le sacrifice d'un chien, c'est une histoire assez compliquée. C'est une méthode très stricte et qui n'est pas très très bien étudiée encore maintenant. On ne sait pas très bien déceler toutes les origines de cette mythologie-là, bien qu'on retrouve ça déjà dans la Bible, hein, la mandragore qu'on retrouve dans l'histoire de Jacob et qui apporte la fortune. Posséder la mandragore, c'est obtenir l'intermédiaire permanent qui va vous procurer la fortune. Parce que la mandragore sait les choses, sait où sont les trésors, et c'est elle qui va vous guider vers le bon endroit. Il y a un tableau d'ailleurs célèbre de Teniers, hein, du début du, disons du milieu du XVIIe siècle, où on voit au pied d'un gibet plusieurs personnes en train de creuser à la recherche donc d'un trésor, et puis on voit une petite mandragore qui est là en indiquant le point où il faut creuser. Alors, sur ce qui concerne l'iconographie, puisqu'on en parle, c'est un sujet, pas spécialement celui de la mandragore, qui est un sujet très rare dans les représentations, mais la recherche des trésors et les pilleurs de tombes sont des sujets qu'on retrouve très très fréquemment. On ne sait pas très bien pourquoi. Je pense que c'est plutôt lié au développement des recherches archéologiques à partir de la fin du XVIIe siècle et pendant le courant du XVIIIe, surtout d'ailleurs chez les Italiens et chez les Allemands. On retrouve des très fréquentes scènes de pillage de tombes et d'évocation des revenants ou des habitants de ces tombes, les mauvais esprits avec lesquels il faut négocier pour obtenir le droit ou le moyen de recueillir le fruit de la recherche. C'est quelque chose qui ne va pas naturellement sans danger, et toutes les histoires, alors, c'est un scénario extrêmement classique que celui qui profane, celui qui profane une tombe, bien souvent risque de mourir à son tour et de prendre la place même dans la tombe de celui qui s'en échappe sous forme d'un revenant.
Les paysans disent que l'on voyait dans les souterrains du château de Puy-de-Pont, en Dordogne, par le trou d'une porte de fer, un veau d'or étendu sur une table et à côté un bâton de bronze et un manteau écarlate. Certains ajoutent que toutes les fois qu'on a voulu y faire des fouilles, il est survenu une furieuse tempête. Ils citent le nom d'un homme qui y trouva un mouton qui l'emporta sur ses épaules. Quelques moments après, il l'entendit faire une conversation avec le diable qui le suivait.
Il n'est pas de village un petit peu ancien qui est conservé des maisons anciennes dans laquelle on désigne la maison du trésor, la maison du diable, la maison de la fée, le château, tous les châteaux en ruine. Dieu sait si nous en avons en France, enfin dans tout l'Occident. Ben dans tous les châteaux, quand on est jeune, on sait qu'il y a un souterrain qui va de tel endroit à tel autre, qu'au fond de ce souterrain, certainement, il y a un trésor. Alors on cherche tous, comme des fous, à retrouver ce trésor. Et finalement, on ne trouve rien, mais il n'est pas exclu, effectivement, qu'on puisse en trouver.
La maison de mes arrière-grands-parents, laquelle est aujourd'hui en ruine, s'élevait au mât de Coudère, entre Limogne et Cajarc, en Guyenne. C'est à présent un endroit abandonné, mais autrefois, c'était le lieu de bien des convoitises. Figurez-vous que tous les 100 ans, un gros sac de louis d'or apparaissait posé sur le sol du cellier. Si on ne savait jamais la minute exacte à laquelle il venait là, par contre, on n'ignorait pas que le premier qui s'en emparait le gardait pour lui sans la moindre contestation. Seulement, de mémoire d'homme, il n'y eut jamais qu'un seul malin pour s'en saisir avec dextérité à l'heure dite, le diable. On avait beau calculer, se poster, fermer les issues, s'y mettre 10, 20, toujours sa main se tendait à la seconde même où le sac apparaissait. Croyez-moi, si mes ancêtres avaient pu le prendre avant le diable, je ne travaillerais pas aussi dur aujourd'hui, et je ne vous raconterai certainement pas cette histoire.
La question, à nouveau, en tout cas la véritable question, est bien celle-ci. De quelle heure s'agit-il ?
tout ce qui est matériel doit inéluctablement se transsubstancier en or.
Un sou n'est pas un sou.
Les autres. Alain Veil, numismate. Claude Turier, dessinateur humoriste. Maxime Préau, folkloriste. Livre. Alain Veil, Les pouvoirs cachés de la monnaie, édition de Noël. Claude Métrin, Saturne ou l'herbe des âmes, édition Segers. Claude Gengbé, Le folklore obscène des enfants, édition Maisonneuve. Claude Duneton, La puce à l'oreille, édition Stock. Lu par Virginie Billedou et Jacques Franz. La matinée des autres. Par Francesca Piolo. Réalisation Anne-Marie Abou.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 décembre 1981. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.